deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois.
Écrit libre.
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 Le Panama de Monsieur Gaston. S'il y avait une chose à laquelle Monsieur Gaston tenait par-dessus tout, c'était son chapeau. Un authentique Panama. Il l'avait acheté de nombreuses années auparavant à un vendeur ambulant qui lui en avait garanti l'origine. Rien à voir avec les médiocres imitations asiatiques qui ne duraient même pas un été. Le Panama de Monsieur Gaston avait été tissé à la main dans cette paille à chapeau qu'on ne trouve que là-bas. L'exemplaire dont Monsieur Gaston était le bienheureux propriétaire était d'une superbe teinte ivoire rehaussée d'un ruban gros grain marron. De taille modeste, assez replet et d'un naturel plutôt timide, Monsieur Gaston, lorsqu'il coiffait son chapeau d'exception, se sentait un autre homme. Imperceptiblement, il bombait le torse et se sentait admis dans le cercle fermé des Sinatra, Churchill, Al Capone et autres célèbres possesseurs de Panama. Dès les premiers beaux jours, M. Gaston prenait son Panama et l'emmenait faire crânement sa promenade coutumière sur le port. Il parlait à son chapeau. « Un jour, lui disait-il, nous irons dans ton pays. » Il avait alors l'impression de ressentir sur le sommet de sa tête comme un tressaillement d'impatience. Lors de leur partie hebdomadaire au café du Vieux-Port, il ne se lassait pas d'exposer à ses partenaires de Manille tous les détails de son futur voyage. Il leur racontait comment, au bord du canal, il mettrait ses pas dans ceux de Ferdinand de Lesseps. Il leur décrivait les petites ruelles de Santa Fe, ou leur expliquait comment, dans les vieux quartiers de la capitale, les manufacturières tressaient les fameux chapeaux. « Nous partirons en mars, disait-il. C'est la bonne saison pour voyager là-bas. » Il ne précisait pas en mars de quelle année. Souvent, afin de mieux observer les mouvements des navires qui entraient et sortaient de la rade, M. Gaston montait dans la haute tour qui dominait le port. C'est là qu'un jour, l'irréparable se produisit. Son chapeau profita d'un fort coup de vent pour s'envoler. M. Gaston, incrédule, le vit atterrir sur le pont d'un pétrolier en partance qui battait pavillon panaméen. Désespéré, il vit même distinctement un matelot s'en emparer. Il resta longtemps figé dans l'horreur à regarder le navire gagner la haute mer. Il ne se résolut à quitter son poste d'observation que lorsqu'il eut complètement disparu à l'horizon. Monsieur Gaston sombra dans une profonde dépression. Il cessa de se rendre au café du Vieux-Port. Coiffé d'une simple casquette, il errait sans but dans les rues alentour. Les mois passèrent. Mais un jour qu'il déambulait sur les quais, l'attention de M. Gaston fut attirée par une silhouette à la démarche chaloupée qui avançait dans sa direction. Il sursauta. Il n'en croyait pas ses yeux. Aucun doute n'était possible. Il l'aurait reconnu entre mille, c'était bien son chapeau. Le marin était de retour d'Amérique centrale. Il se montra conciliant et ne fit pas de difficulté pour rendre le Panama à son légitime propriétaire. Monsieur Gaston coiffa aussitôt son couvre-chef d'un air conquérant. La vie allait reprendre comme avant. Pourtant, ce n'était plus pareil. Une sourde rancœur l'habitait. Son chapeau avait fait le voyage sans lui. Monsieur Gaston reprit ses parties de Manille au café du Vieux-Port, mais il ne parlait plus du Panama. Quelque chose s'était cassé. Un beau matin, au moment de sortir faire sa promenade, il oublia même de prendre son chapeau. Le soleil brûlait encore en cette fin d'été. Monsieur Gaston tomba en arrêt devant une vitrine. Il entra. Il acheta un Stetson, un vrai, fabriqué au Texas.
Thank you. Alpe FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
La légende de Juc. Nous n'avons jamais su d'où venait le jeune Juc, un gamin aux yeux bleus et au teint clair. Il était arrivé dans les malles de Salomon Roth, un marin breton à la peau noire. Pendant que Salomon naviguait, Madame Angèle, la patronne de la trinquette, s'occupait de Juc. Il a grandi dans le sel des embruns et dans le fracas des vagues. Les bords de mer étaient ses territoires, où il entraînait parfois les autres gamins de l'île. Il savait tout de l'océan, des variations du jusant au vol argenté des gravelots. Il a toujours anticipé le retour du bateau de son père. Présent sur les quais, il interrogeait les uns, il aidait les autres. Juc avait déjà l'allure d'un homme quand il est parti pour la première fois sur la Belle Poule, un Dundee mythique avec son arrière en cul de poule. Il était facile à identifier avec son ciré jaune, grand, agile, les épaules larges, la tignasse fripée par l'air du large et la perle de nacre qui brillait à une oreille. Et le Big Band. Un jour d'avril, un Russe tournait au-dessus de nos têtes, mais nous étions inquiets par la chute inhabituelle du baromètre. Dès le lever du jour, un silence pesait sur le port, une mer grise et huileuse anesthésiait tout clapot. Les goélands en vigie immobile, des mouettes suspendues dans les airs, les oiseaux attendaient, eux aussi. L'air avait perdu son iode et les horizons s'effaçaient derrière un voile d'étoffe usée. Malgré tout, les bateaux étaient partis et sur la Belle Poule, Juc rayonnait comme à son habitude. Vers midi, un gros coup de vent et des grondements sourds du tonnerre au large. Même dans le port, la houle était devenue agitée. Quand les bateaux étaient revenus tard dans la soirée, les hommes semblaient encore terrorisés, enfermés dans un secret. Ils avaient mis longtemps avant d'oser la première parole. Quand la Belle Poule était apparue dans la matinée du lendemain, il manquait Juc. Un équipage à faune. Des corps momifiés, les compagnons proches n'avaient rien vu. Ils l'avaient cherché, attendu, le déchirement quand il avait fallu rentrer.
Damien Le Cabellec, un vieil homme visiblement ému, se tait quelque temps. On lui apporte un autre verre de vin blanc. Il s'essuie les yeux. Régulièrement, nous nous retrouvons les fins d'après-midi à la trinquette, le même bar sur le port. De temps à autre, il raconte. J'aime bien l'écouter, surtout les soirées où le touriste a déserté la côte. Ce soir-là, il a longtemps regardé les nuages embrasés par le soleil au bord de l'horizon. Et d'une voix sourde, il reprend.
La disparition de Juc avait marqué cet épisode étrange. Seul, désemparé, Salomon Roth avait repris son bagage pour d'autres horizons. Le vide créé avait effacé les mémoires des habitués du port. Ils faisaient machinalement, le bar était devenu un monde de pas feutrés. Le rythme des marées avait finalement imposé sa loi. Une dizaine d'années plus tard, dans le port de Guilvinec, moi, le Cabellec, je croise un marin traînant sur les quais, un homme perdu. Il marmonne des paroles que personne n'écoute. « Juc !» Je suis certain de retrouver Juc. Doucement, je l'ai apprivoisé, et chaque jour, il bredouille des anecdotes vécues teintées de légendes. Avec le temps, j'ai pu schématiser ce récit. Un jour de pêche au large, un banc de baudroie, une météo loufoque, une bruine tenace brouille les horizons. Les marins inquiets, une luminosité bleutée irradie la mer, un bouillonnement d'écume. La mer se déchire, un monde étrange. L'hippocampe côtoie le macareux. L'oya se mêle au laminaire. Une légende se réinvente. Une belle, jeune dame attire Juc dans la ville engloutie. Des vasques saturées de perles de lumière font danser les ombres. Flottements nuptiaux aux harmonies celtiques. Corps à cœur très doux, embrasement céleste plongé dans les abysses, l'infini frisson des chimères. Et puis, Un plein feu psychédélique, un tourbillon grisant, des corps emportés par la tornade et l'effacement. Un temps impossible à mesurer, les nuances du silence, un léger courant d'air. Jules se retrouve nu sur un lit de goémon noir dans une baie désertée de ses eaux. Jules, ancré dans sa fiction, ne sait plus rien du temps d'avant. La perle à son oreille avait changé de couleur.
Quand Monsieur le Cabellec se tait, le ciel a imposé son millier d'étoiles. Mes questions restent sans réponse. Dans le café, quelques mots éparses sur la vie ordinaire, la saison de la coquille, les prémices de l'hiver. Il refuse que je le raccompagne chez lui. Un homme s'éloigne dans la nuit, une ombre tranquille disparaît au coin de la rue. Chez moi, je m'installe devant mon clavier et très vite, les premiers mots. Nous n'avons jamais su d'où venait le jeune Juc.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Chaque chose en son temps. Je répète cette phrase énigmatique en sortant pour une promenade. Les cailloux crissent sous mes bottes. Dans l'allée, l'œil étoilé de blanc, les pâquerettes se trémoussent. Elles tremblotent et se rient de moi. Un oiseau, tourmenté par le grand vent, s'enfuit. À l'entrée du jardin, les iris s'inclinent, désespérées, prêtes à tomber. Les tulipes, arrogantes dans leur soirée rouge vif, restent immobiles, raides comme des comtesses. Elles boivent la lumière dans des coupes en cristal doré. J'aperçois mon voisin, le jardinier à moustache, affairé autour d'une branche tombée. Il scie des bûches pour la cheminée. Les fleurs du cerisier se prennent pour des boules de neige. Elles éclatent au soleil, puis se dispersent autour des pousses de framboisiers sur la défensive, pensive. Préparant le prochain parfum du matin, les tendres lilas attendent, main dans la main. Je leur dis à demain et je passe mon chemin. À côté, le jardinier a l'air concentré. Il ramasse des branches tombées, les taille et les entasse. J'avance sans me faire remarquer, de peur de le déranger. Il plante des longues tiges inclinées, cathédrale végétale. Je me suis approchée et doucement j'ai demandé « Que faites-vous donc autour de vos plantations avec tant d'attention ?» Je construis une serre avec des branches et quelques arceaux. Les nuits sont froides. On dirait un berceau, c'est beau. La nuit, il y fera chaud. Puis-je vous aider? Comme vous voulez. Tenez, vous pourriez enlever les fleurs des fraisiers. Les enlever? Mais pourquoi? Chaque chose en son temps. Leur laisser le temps pour prendre racine. Les prochaines fleurs seront plus nombreuses et plus solides. Ainsi va la vie. Chaque chose en son temps. Nous nous asseyons sur le banc près du puits. Un moment de silence. Pas d'ennui. Je sais qu'il y passe des heures, même la nuit. C'est un homme étrange et solitaire. Nous parlons de l'eau, de la pluie et du temps gris. Du temps où l'eau ne coulait pas ainsi. Cette abondance en apparence nous épuise. Nous parlons des sécheresses à venir, des épidémies et du désespoir des animaux sauvages. Avez-vous déjà dîné? Allons cueillir des pissenlits qui font rêver et qui sont excellents pour la santé. Je ferai des œufs durs si vous voulez. J'ai aussi un poulailler. Ah oui, c'est vrai. Je vais chercher le saladier et un peu de vin pour se réchauffer. Nous avons passé ainsi toute la soirée jusqu'à la nuit tombée. Les premières étoiles nous ont regardés étonnés. Quelques gouttes de rose éclaboussèrent le ciel. Après le dîner, pour se reposer, nous nous sommes allongés dans la serre à peine terminée. Il sentait la terre et l'herbe mélangées. Il avait curieusement des mains douces qui savaient caresser. Les dernières étoiles se sont mises à danser. J'ai tout abandonné. J'ai passé la nuit à ses côtés. Nous avons rêvé du monde d'après. Les lueurs du petit matin chantaient le lendemain. Au revoir. Chaque chose en son temps, et je murmurais.
FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
C'était un papillon très rare, un macaron. Il aurait dû rester de ce côté-ci du Rhône, du côté des lavandes. Né d'une chrysalide hivernale, il avait déployé ses antennes aux rayons du printemps provençal. Les deux taches sur ses ailes, ressemblant à des yeux, donnait l'impression, à qui avait le privilège de l'observer, d'un regard profond et majestueux. Alors, qu'était-il donc allé voler, beaucoup plus au nord, et surtout de l'autre côté du fleuve, aux confins de l'Ardèche et du Gard, au pays des châtaigniers? Les vents, Mistral et Tramontane, dans leur perpétuelle querelle d'adolescents, en étaient probablement la cause. Un matin, il s'était retrouvé dans une étroite vallée au pied des montagnes, au beau milieu d'un champ de coquelicots. Il a cru alors qu'il était dans un pays nouveau peuplé d'une multitude de congénères, papillons comme lui, mais d'une autre espèce puisque tous rouges. Il est vrai que la ressemblance est frappante, surtout quand la rosée n'est plus et que le soleil défroisse pareillement et les ailes des papillons et la robe des coquelicots. Même apparente fragilité, même profusion des couleurs, même vie éphémère, mais ça, il ne le savait ni l'un ni l'autre. Pourtant, c'était bien en raison de la brièveté de leur existence que l'instinct de survie des espèces fit son œuvre. Notre macaron, gonflé d'une sève pulsionnelle, tomba amoureux fou de la première demoiselle venue. Le leurre avait fonctionné. La fleur s'était faite papillon pour mieux le charmer. Il la lutina, la butina sans retenue et sans pudeur. Autant vous dire qu'elle s'est laissée faire. Comblée et épuisée, elle s'est endormie. Le macaron, dégoulinant de nectar, grisé par tant de félicité, gonflant le torse, vit venir à lui une, puis deux, dix, cent, mille autres fleurs qu'il prenait pour autant de demoiselles papillons. Il déploya alors grandes ses ailes comme pour mieux toutes les embrasser, toutes les posséder, toutes les aimer. L'essence affûtée, il avait bien vu d'autres papillons attirés, sans doute par toute la luxuriance de ses débats, mais de plus basses conditions, car il n'avait que des livrées sobres et modestes, blanches ou jaunes, d'un jaune pâle. Condescendant, il leur laissa les fleurs les plus simples, et puis après tout, il y en avait tant qu'il pouvait bien partager. Il en fut ainsi toute la matinée. Et cet ivre de toutes ces jouissances orgasmiques, repu de pollen, l'esprit illuminé, il faut bien le dire, par les molécules opiacées des pavots, fussent-ils simples coquelicots, que notre macaron, croyant être invincible, se mit à voler en spirale ascendante avec le sentiment d'être aussi rapide que la lumière. Ainsi, pensait-il, il atteindrait le sublime et l'extase suprême dans la pureté absolue en atteignant le soleil. Mais à la lisière de la châtaigneraie proche, dans l'ombre de la frondaison, un œil vif, perçant et noir, ne voyait que le vol chaotique, lent et lourd, d'un papillon bien dodu et imprudent. Le corbeau s'élança. La branche soulagée l'en remercia. L'oiseau déploya sa noire envergure qui n'assombrit qu'un instant le ciel du Macaon. Le craquement du thorax et de l'abdomen du papillon fut à peine audible. C'en était fini de l'existence éphémère d'un papillon si rare. Seul, une aile ou un rond ressemblant à un œil tout étonné prit son temps en tournoyant de se perdre au milieu du champ dans l'indifférence totale des coquelicots.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
Le petit paradis des bords de Marne. C'était une belle journée d'été. Depuis quelques années, la famille allait camper sur les bords de Marne et c'était toute une organisation. Le samedi matin, les enfants s'entassaient dans la vieille traction. La veille, le père avait sanglé la Canadienne sur la galerie, la mère avait préparé les bidons d'eau potable, les sandwichs au jambon, l'énorme salade de riz du dimanche et la vieille cafetière bleue émaillée. Celle qui ne risque plus rien. Le fils aîné partait devant pour faire en vélo les 20 kilomètres qui séparaient l'habituel lieu de vie, une petite ville de province, et le coin de vacances qu'il s'était octroyé en toute liberté. Il pouvait ainsi aller chaque jour acheter le pain au village d'à côté. C'était une époque où le camping sauvage était autorisé et où les scouts avaient fait des émules. La tente à peine montée, un lieu d'aisance était créé. Un trou dans le sol, un paravent sommaire et un tas de sable. Le foyer monté à l'aide de grosses pierres et du petit bois ramassé pour le feu de camp du soir. Un pain de glace acheté le matin en partant et conservé dans une petite lessiveuse permettait de garder au frais les fruits, le gros saucisson, le beurre. Une seule marmite était emmenée pour faire cuire les macaronis à la norvégienne. Les pommes de terre, elles, seraient rôties sous la cendre. Le père n'oubliait pas quelques bouteilles de vin rouge, le tire-bouchon, et les boîtes de singe, autre nom du corned beef. La mère, le pain d'épices et une réserve de chocolat meunier. On pouvait tenir une petite semaine si les paysans du coin acceptaient de vendre quelques œufs. Et si la pêche était bonne. Les enfants ne s'ennuyaient pas. Les deux plus grands partaient pêcher en amont du campement. Ils fabriquaient une cabane pour s'abriter du soleil, des nasses pour attraper les écrevisses, des personnages avec des herbes tranchantes, des sifflets de sureau pour appeler les oiseaux. Ils cherchaient des têtards, des tritons, des salamandres dans le petit ruisseau qui serpentait un peu plus loin. Au milieu du bois de peupliers. Les deux plus petits passaient leur journée à batifoler dans l'eau fraîche et à creuser le sable un peu vaseux pour construire châteaux, douves et ponts. Allongé sur la couverture écossaise, main nouée derrière la nuque, le père fumait et contemplait son petit monde d'un air satisfait. Il dormait beaucoup, tandis que la mère, elle, sortait son éternel tricot. Les parents étaient heureux et fiers d'avoir découvert cette petite plage naturelle. « Un coin de paradis !» disait-il. Le soir, après le feu de camp, on allait vite se coucher. « Le grand air, ça fatigue !» disait la maman. D'ailleurs, mieux valait oublier l'inconfort, l'assaut des moustiques, les coups de soleil. Seuls les parents traînaient un peu dehors. Cette année-là, le temps n'était pas stable. Ils avaient reporté plusieurs fois l'expédition tant la météo était désagréable. « Un été pourri !» disait-on. Ça arrivait parfois dans cette région. Mais devant la déception des enfants, ils avaient décidé de partir quand même. « On n'est pas en sucre !» avait dit le père. Les deux premiers jours s'étaient bien passés, mais la chaleur montait peu à peu sans un souffle d'air. Au matin du troisième jour, le ciel avait commencé à se charger de gros nuages blancs, très ronds, qui avaient progressivement viré au gris, puis au noir. Les deux petits jouaient au ballon quand les grondements ont commencé. La mère, inquiète, commença à ranger. Elle proposa de démonter le camp et de rentrer. Elle avait toujours eu peur de l'orage. Un peu réticent, « Ça va glisser, tu vas voir !» Le père partit tout de même à la recherche des aînés. Les deux enfants, inquiets, se remémorant les conseils des parents, avaient décidé de ne pas partir vers le bois. La foudre peut tomber sur les arbres, mais de s'abriter dans l'eau. Au moins, s'il pleut, on sera déjà mouillé. À cet endroit, la configuration de la rivière était différente et il leur fallut s'agripper à une haute berge pour s'immerger. Impossible pour le père de voir les quatre mains accrochées à l'herbe. Il s'en revenait bredouille quand, dans un claquement et un éblouissement d'apocalypse, la foudre tomba sur le petit bois de peupliers. Tétanisé, le père appela les enfants en hurlant. La pluie se mit à tomber par gouttes énormes. Dans un tourbillon de feuilles et de branches, il rebroussa chemin et repartit vers la voiture où s'étaient réfugiés la mère et les deux petits. L'orage ne dura pas longtemps, mais il fut d'une violence extrême. Quelques minutes plus tard, le campement était en lambeaux et les petits pleuraient leur ballon disparu. Le père, parti à la recherche des aînés, arpentait la berge lorsqu'il les vit arriver, en larmes et grelottant. « On a été foudroyés !» hurlait-il. Il fallut un bon moment aux parents pour comprendre, entre leurs sanglots, le récit des enfants. Se tenant à la berge, ils avaient ressenti à travers leur corps la secousse électrique qui avait parcouru le sol. « Ils sont secoués !» déclara la mère. « On a échappé au pire !» soupira le père. On remballa bien vite cet après-midi-là. Tout fut jeté en vrac dans la traction et le vélo fixé à la hâte sur le toit. L'année suivante, le camping sauvage était interdit. Il ne revint jamais au paradis des bords de Marne, où gît toujours la vieille cafetière bleue émaillée, celle qui ne risque plus rien.
Vous avez entendu Le Panama, Philippe Gérard, La Légende de Jup, Michel Frappard et Michel Lannes, Le Jardinier, Cécile, Le Papillon, Michel Lannes. Mercredi 11 novembre, nous avons choisi des nouvelles Ambiance noire et polar. Vous pourrez aussi écouter notre nouvelle série Fiction à partir de faits d'actualité qui questionnent